Voilà, on pouvait trébucher à gauche ou à droite. Et plus le voyage avançait, plus ça s'est élargi pour finir avec une stabilité qui me fait que voilà, qui était très très large, où je pouvais plus de risque de tomber. Au bout d'un moment, j'avais plus de risque de tomber. Et ça tombe bien parce que en fait, c'était les endroits les plus dangereux, même physiquement. Donc là, il fallait être en possession de ses moyens pour justement savoir à quel moment on se met en danger, pour ne pas se mettre en danger. Et donc la Bretagne, ben voilà, on peut marcher relativement tranquille, sans même en pensant à autre chose. Donc voilà, c'était au sens là où le fil, c'était vraiment parallèle au fil du rasoir, mais sauf que ça coupe pas.
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive! L'émission qui vous écoute!
Un micro à la dérive, à la dérive, à la dérive.
Un micro à la dérive, qui s'écarte de la direction normale sous l'effet des vents, des courants. Oui, mais un micro qui revient toujours à son port, chargé de son et d'envie d'ailleurs. De Aristote à Nicolas Bouvier, la liste des écrivains illustres qui avaient tous ce même besoin, celui de marcher, d'user leurs souliers sur des kilomètres pour faire bouger leur esprit, cette liste est longue. Ils marchaient pour ensuite écrire comme si leurs jambes étaient le moteur de leur pensée. Christophe Lemaison n'est pas un écrivain et il travaille comme élagueur pour l'Aglo de l'Orient. Et toutefois, il partage avec ses penseurs qui ont beaucoup écrit sur le thème du voyage, qu'il soit mental ou physique, ce besoin de s'exiler hors de son confort matériel. C'est le troisième épisode consacré à son voyage à pied qu'il a fait quitter Caudan un samedi matin, fin septembre 2019, et traverser en ligne droite la France pour rejoindre la maison de son père à Nice fin décembre de la même année. Cette marche de plus de 1400 km sur une durée de 3 mois a cette particularité d'avoir suivi une diagonale imaginaire qui coupe la France en deux, de Caudan à Nice. Son chemin ne suivait ni les GR, ni les sentiers pittoresques tout tracés, mais tout ce qui lui permettait de suivre coûte cette ligne imaginaire, cette diagonale du creux. C'est donc des bouts de route nationale, départementale, communale, puis des chemins oubliés qui longent encore certains champs, ou encore ce qu'empruntait ce que Sylvain Tesson qualifie de chemin noir. Christophe Lemaison est parti accompagné de sa chienne Faya et d'un chariot de marche qui supportait ses 40 kg de bagages. Je vous encourage donc à cliquer sur radiobalise.com et d'écouter les deux premiers épisodes pour apprendre en quoi son chariot et ses 40 kg l'ont été utiles pour marcher en quasi-autonomie sur une aussi longue distance. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter des extraits d'interviews de Sylvain Tesson, l'écrivain marcheur, à propos de son dernier livre intitulé « Sur les chemins noirs » et la fin de l'entretien avec Christophe Lemaison. Vous vous apercevrez combien Christophe et Sylvain et probablement d'autres grands écrivains comme Jacques Lanzmann, Arthur Rimbaud avaient besoin de marcher pour penser, mais aussi pour soigner leurs mots M-A-U-X. Pour les gens qui veulent faire le même type de voyage, donc un voyage en dehors des sentiers, on va dire la Cité de Compostelle, les sentiers balisés, il y a une littérature, il y a des sites internet qui préparent à ça?
Non, il y a une littérature, il y a les chemins noirs de Philippe Tesson qui sont très bien sur cette expérience-là, mais c'est avant tout une... Il faut accepter de se perdre, accepter de pas voir les, parce que de pas voir forcément le coin le plus magnifique, de pas voir le pas de Roland, de pas voir les cirques, parce que le problème des GR où on va rencontrer du monde, c'est que les GR, c'est leur nature d'être, c'est-à-dire que c'est de montrer aux gens des belles choses. C'est pas une voie romaine, c'est pas un axe de circulation, c'est avant tout du tourisme. Donc le GR fait énormément de détours, fait énormément de pour voir des belles choses. Donc moi j'ai choisi de les prendre au minimum. Ça m'arrivait de les prendre quand ils étaient optimum pour moi, quand ils étaient dans mon intérêt, je prenais des GR. Mais la plupart du temps, c'est de savoir, pour faire ce genre de voyage, pour faire un itinéraire comme ça, c'est de savoir lire une carte. Et surtout, accepter de se perdre en fait. Ne pas paniquer parce que... pas être trop psychorigide, quoi. Donc, se dire, on a fait une route théorique, on va essayer de se la suivre. C'est pour ça que la ligne droite, c'est assez intéressant, parce que c'est une utopie. On ne peut pas suivre une ligne droite. C'est impossible, que ce soit en mer, en l'air ou sur la terre. C'est impossible. Donc, ça m'est arrivé de prendre des photos là, sur le compte, c'est rigolo, où je suis sur la ligne droite, réellement. Donc, sur un chemin, mais ça dure 20 mètres. Ensuite, je m'en écarte, je pars à gauche, à droite.
Moment, quand tu parles de ligne droite, c'est pas une rigolade, vraiment tu as suivi une diagonale au plus près, quoi.
Oui, on voit sur le compte Instagram, j'ai fait une photo de la ligne directe, donc, deux points, Lorient, Seyant, ami de mon père, donc c'est la ligne droite. Et l'objectif, c'était de ne pas s'en éloigner, s'en éloigner le moins possible, et à chaque fois qu'on s'en éloigne, d'en revenir. Donc en gros, c'est comme si on naviguait à la voile. On veut aller à un point A, un point B, on est au près, donc le vent de face, et on tire des bords. Donc c'est exactement la même chose. Ça m'est arrivé d'être vent arrière, sur des distances souvent de 20-50 mètres, ou d'être parallèle à la ligne. Ça m'est arrivé aussi d'être parallèle à la ligne droite, mais jamais très longtemps. Et aussi de m'en éloigner, mais beaucoup. Le plus loin que je m'en suis éloigné, c'est 60 km. J'avais prévu de passer par le... parce que la ligne droite passait par le Mont Ventoux. Mais vu les conditions météo et la difficulté de voyager avec ce chariot en montagne, j'ai choisi de passer le Ventoux par... de le laisser au sud. Donc j'ai fait un beau détour. Mais bon, j'ai été gagnant en termes de temps parce que c'était plus long, mais beaucoup plus facile. Et bon, le Ventoux, je l'ai vu, je ne suis pas monté dessus, mais je l'ai vu tous les jours pendant 4-5 jours, c'était magnifique et je ne regrette pas du tout ce choix parce que c'était vraiment une montagne, ce n'était pas le moment de faire l'ascension de ce genre de montagne.
Le micro la dérive, traverser la France à pied, épisode 3. Ton fameux chariot qui t'a beaucoup aidé, à un moment tu l'as pas maudit, quand on voit parfois des chemins escarpés ou 40 kilos, même s'il y a des roues, ça reste comme 40 kilos, un chariot large.
Non, je l'ai pas maudit, je me suis maudit parce que le chariot c'est un objet qui est pour rien, mais par endroit j'ai choisi des chemins qui n'étaient pas forcément adaptés. Mmh. Mais bon, après ça faisait partie du voyage, j'ai eu des endroits où pour faire 2 km il a fallu 4 heures. Donc parce que c'était de la via ferrata, donc c'était du chemin de montagne où une seule roue du chariot pouvait tenir. Donc dans ces cas-là, le chariot il se transformait, je pouvais le mettre sur mon dos, 40 kg sur le dos, c'est vraiment très lourd, donc on n'avance pas beaucoup. Mais voilà, dans ces cas-là, le lendemain, j'apprenais au fur et à mesure, je réadaptais mon chemin, donc je me suis fait avoir deux ou trois fois. Après, j'ai essayé de réadapter, d'avoir un maximum de chemin qui soit praticable avec le chariot. Mais la plupart du temps, ça a été un bonheur de marcher avec un chariot, en fait. Ça a été vraiment quelque chose de fluide, de naturel, de pas traumatisant, ni pour les pieds, ni pour les articulations. Alors qu'un sac à dos, les 40 kilos ou les 25 kilos, on les retrouve dans les chaussures. Donc c'est des ampoules, beaucoup plus d'ampoules, beaucoup plus... Non, j'ai pas regretté ce choix-là du chariot. Non.
Et on l'a dit, donc tu as traversé la France en suivant une ligne rouge, une ligne droite. Donc tu as vu la France en évitant aussi les centres urbains, les villages, tant que tu pouvais. Donc tu as vu la France rurale, mais aussi une France rurale qui a été travaillée par l'homme. Quel est ton regard sur cette France ?
Il y a deux types de régions que j'ai traversées. Donc, la Bretagne, on la connaît bien. C'est une zone de bocage relativement sauvage, sauf qu'on peut trouver des petits coins sauvages. Après, on arrive dans une zone de culture, les Pays de Loire, Vendée, tout ça, qui est très, très... Moi, je dis l'urbanisme, c'est l'urbanisme agricole, mais c'est très parcellé avec des parcelles tirées au cordeau. Et après, on arrive dans les zones de montagne. Après, c'est le hasard de la route, c'est ça le fameux fil du mur. C'est le hasard de cette route-là, c'est-à-dire qu'on s'arrive dans toutes les régions de montagne à partir du Limousin, où vraiment on se retrouve dans une France des petits villages de montagne, des petits villages où là, c'est magnifique tout du long. Il n'y a pas eu de... Si, peut-être le plateau d'Albion qui a été assez compliqué à traverser parce que des conditions météo très très dures, des pluies cévenoles fortes, donc même des pluies tellement fortes que pas moyen de marcher en fait, donc sur deux jours, trop dangereux en fait, avec des grandes grandes lignes droites, mais magnifique quoi, du Limousin jusqu'à Nice, des paysages extraordinaires.
Pourquoi tu dis sur le fil du mur, le mur, mais quel mur ?
Alors c'est un peu faire comme sur le fil du rasoir, c'est en fait le fil du rasoir, quand on marche dessus on se coupe. Mmh. Là, le fil du mur, je suis parti dans un état d'esprit où ce trait bleu là sur la carte, c'était un mur. On ne se coupe pas si on marche dessus, mais on peut tomber en fait, d'un côté ou de l'autre. Parce que je suis parti avec une fragilité psychologique forte, forte. Et voilà, après ce fil du mur, au fur et à mesure du voyage, il s'est élargi. C'est-à-dire qu'au départ, je dirais qu'il faisait un petit mètre de large. Donc voilà, on pouvait trébucher à gauche ou à droite. Et plus le voyage avançait, plus ça s'est élargi pour finir avec une stabilité qui me fait que voilà, qui était très très large, où je pouvais plus de risque de tomber. Au bout d'un moment, j'avais plus de risque de tomber. Et ça tombe bien parce que en fait, c'était les endroits les plus dangereux, même physiquement. Donc là, il fallait être en possession de ses moyens pour justement savoir à quel moment on se met en danger, pour pas se mettre en danger. Et donc la Bretagne, ben voilà, on peut marcher relativement tranquille, sans même en pensant à autre chose. Donc voilà, c'était au sens là où le fil, c'est vraiment parallèle au fil du rasoir, mais sauf que ça coupe pas quoi.
Alors il y a une chose assez étonnante, c'est que ton chien, lui, il a mal vécu le retour en Bretagne.
Oui, ben c'est un chien qui, comme tout chien, qui est fait pour vivre en meute. Le retour en Bretagne, d'abord, elle a mal supporté le train, parce qu'on s'est retrouvé enfermé dans un train pendant 8 heures. Et ben, il a fallu reprendre le travail quand je suis rentré. Et reprendre le travail, ça voulait dire que la chienne restait seule, revenir à sa vie de chien d'avant, c'est rester seule dans la journée. Et là, elle a eu du mal. On peut pas dire une dépression pour un chien, mais elle a eu un petit moment un peu difficile, ouais, où. Et ça lui est pas sorti de la tête. C'est-à-dire actuellement, je n'arrive pas à. S'il y a une faille dans le grillage, elle se barre. Elle revient, hein. C'est pas une fugue pour aller se perdre. Elle revient quelquefois 2 heures après, quelquefois 2 jours après, mais je suis obligé de veiller. Actuellement, elle a pris l'habitude de. Parce que moi, j'habite plus chez ma femme, donc on n'habite pas très loin, mais elle a pris l'habitude de retourner dormir à l'endroit où j'habitais avant, en fait. Je suis avec mes filles, donc bon, après, c'est pas gênant, mais la seule chose qui me gêne dans cette histoire-là, c'est que c'est une chienne qui adore courir après tout ce qui court. Ça fait pas de mal aux chats, mais elle adore les courser. Et bon, c'est un peu gênant par rapport aux riverains, aux voisins. Et tout. Mais c'est en ce sens-là où le retour pour elle a été difficile, et je pense qu'elle est plus pareille maintenant qu'avant le départ.
Portera. tient. Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte, que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. Tout disparaît.
Un instant, Christophe Maison, pour écouter ce court extrait d'une interview donnée par Sylvain Tesson à François Bunuel dans La Grande Librairie.
Qu'est-ce que vous êtes dit à l'époque? Si je m'en sors, je traverse la France à pied, seul.
C'est ça, c'était une sorte de serment que je m'étais fait à moi-même sur un lit d'hôpital. J'avais trébuché d'un toit, je m'étais abîmé. J'avais passé plusieurs mois à l'hôpital. Et comme j'avais reconquis la possibilité extraordinaire de pouvoir me déplacer et de refaire ce que j'aime, c'est-à-dire marcher et dormir dehors, je m'étais dit que j'allais faire un voyage, mais...
Je me méfie un peu quand vous dites refaire ce que j'aime, parce que ce que vous aimez, c'est pas seulement marcher, c'est marcher de façon extrême, dans des endroits improbables, où on a tous envie d'aller, mais qui risquent de vous coûter la vie.
Oui, mais justement...
Ça vous a calmé ou pas?
Un petit peu, forcément, par la force des choses, j'avais quand même un tout petit peu moins d'énergie vitale. Puis surtout, j'avais moins envie de m'esquinter sur les chemins du monde et de faire une forme de voyage toujours un peu débridé, excessif. Je m'étais dit que c'était le moment ou jamais de faire cette chose que j'avais toujours un peu négligée, qui était de comprendre le pays où je vivais. Quoi. C'était un peu idiot d'avoir passé 20 ans entre Oulan-Bator, le Valparaiso et Samarcande, et puis de ne pas connaître l'Indre-et-Loire.
Ouais. Ou l'Ardèche de Pierre.
L'Ardèche, ou Vivarais, ou des bois de paille-olive.
On va terminer ce reportage par cette question du bien physique ou psychique, que cela a pu apporter d'une part à Christophe Lemaiseau, et d'autre part à Sylvain Tesson. Alors Christophe et Sylvain ne sont pas tout à fait partis pour les mêmes raisons. Christophe avait besoin de cette parenthèse de marche pour se retrouver avec lui-même et sortir de cette longue hospitalisation avec un traitement lourd qui l'étouffait. Et Sylvain Tesson, qui est, rappelons-le, un écrivain voyageur, éprouvait ce besoin urgent de quitter son hôpital où il avait été admis suite à sa chute du toit de sa maison. Il espérait ainsi, à travers cette marche, retrouver ses jambes d'avant et soigner son âme meurtrie par son nouvel handicap. Mais écoutons d'abord Christophe. Tu n'as pas eu l'occasion de revoir les soignants de l'hôpital Charcot ou bien ton médecin traitant. Tu as pu en parler aussi de ce voyage hein?
Non, les soignants à Charcot, enfin après, faut un peu, après c'est la circonstance actuelle qui est un peu compliquée. Ouais. Mais même, c'est des gens qui dont c'est le métier et qui ont énormément de patients, énormément. Donc moi, je sais qu'ils ont consulté ce compte-là.
Un compte Instagram.
Mais non, on n'a pas discuté. J'ai pas eu de... Mon médecin traitant, si, je l'ai revu parce que ça reste une parenthèse. Donc c'est pas ça qu'on dit un voyage thérapeutique. C'est pour moi, c'est pas de la thérapie. C'est un voyage plutôt. Comme un analgésique, c'est-à-dire qu'il évite d'avoir mal pendant 3 mois et demi, mais ça ne résout pas grand-chose en fait, mais ça permet quand même de souffler. Et donc au retour, il a fait que je revoie mon médecin pour continuer justement à réadapter le traitement de l'anxiété, voir que c'était une maladie qui était chronique et qui était pas liée à un événement comme on a pu le dire au départ, qu'effectivement des événements malheureux de la vie l'accentuent, mais que voilà, que c'est pas... J'en avais conscience dès le départ, d'une façon, enfin consciente ou inconsciente, mais que c'était pas une fuite en fait, c'était vraiment pour souffler en fait.
Et pourtant de l'extérieur, on pourrait penser que comme c'est une épreuve physique et psychologique pour tout un chacun, on pourrait penser ça renforce, j'ai réussi à le faire, ce que j'ai été capable de le faire, je pourrais peut-être le refaire plus tard, et finalement c'est pas si évident que ça.
Non, j'étais pas dans cette optique là parce que moi j'avais pas de preuve à faire, je savais que je pourrais le faire, j'étais là même en dessous de mes capacités. C'est pour ça que je dis que j'aurais bien continué. Non, je ne l'ai pas vécu comme un exploit en soi. Je l'ai vécu vraiment comme une parenthèse où, pour une des premières fois de ma vie, pendant 3 mois, j'ai fait ce que je voulais, sans avoir de contraintes horaires, sans avoir de contraintes liées aux autres, sans rien subir en fait. Y a de la neige, je choisis d'y aller, de continuer à marcher. Si j'ai pas envie, si je suis fatigué, je monte ma tente, je fais de mon feu et je reste au chaud à glandouiller dans ma tente d'une journée. Voilà, c'était vraiment une parenthèse qui a été très bénéfique dans ce sens-là et qui m'a permis en rentrant aussi de diminuer énormément les traitements et la chimiothérapie en fait de l'anxiété. Mais ça m'a permis aussi de voir que en cas de souci d'aller marcher, oui, d'aller faire du vélo, ça peut être aussi ça fait l'effet d'un aspirine en fait. De se retrouver, ça vide pas la tête, mais ça occupe la tête avec autre chose. Et c'est surtout, pour moi, c'est un seul milieu où on a vraiment une liberté complète, même si on subit des éléments, mais je les ai jamais subis, les éléments, en fait. J'ai louvoyé, il y avait une dépression qui était prévue, donc j'avais un site météo relativement précis, un site de météo de montagne. Une dépression qui arrivait, j'infléchissais ma route pour la contourner, pour éviter de la traverser. Quand j'avais pas le choix, j'attendais le bon moment pour... Donc j'ai vraiment pas subi les éléments.
Quand on rappelle, donc t'es parti mi-septembre, t'es arrivé mi-décembre. Si t'avais l'occasion de le refaire, en dehors de toute contrainte de vacances, tu le ferais à quelle saison ? Même saison ou bien davantage plus tôt dans l'année ?
Non, je le ferais même plus tard. Je ferais carrément en hivernal. Non, j'adore ça, moi. La marche en montagne l'hiver... Et contrairement à ce qu'on pense, dormir dans la neige, c'est magnifique. Enfin, c'est beau. La nature a vraiment un autre regard. Après, c'est facile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un matériel minimum et surtout qu'on a du feu, c'est vraiment le secret de la réussite de ce voyage-là. C'est vraiment ça, c'est le feu. C'est pour ça aussi que l'intérêt d'avoir, plutôt qu'avoir un réchaud à gaz qui ne sert qu'à faire à manger, à chauffer de l'eau, là, le petit poêle, lorsque j'ai fini de faire à manger, j'avais du bois à volonté, donc je l'alimentais jusqu'à dormir en fait. Donc c'est aussi et l'hiver, c'est vrai que c'est quand on cherche l'isolement, quand on cherche un peu une espèce de retour sur repli sur soi-même, c'est la période où on voit personne en fait. On n'a pas de touristes, on a quelques chasseurs de temps en temps, même les gens dans les villages, le soir il fait nuit à 5h, donc les gens sont, donc c'est vraiment la période. Après, je me passerais bien des grosses dépressions qu'on a eues, mais ça a été un hiver un peu exceptionnel cette année en France. On a eu vraiment des grosses, grosses dépressions, de la neige très précoce. C'était pas prévu d'avoir 30 cm de neige à cette période-là en Ardèche. Ça a participé aussi au truc. C'est-à-dire que je me suis fait des marches magnifiques sur des routes. Pour le coup, c'était plus des pistes, c'était des routes parce que les pistes étaient dangereuses sous la neige. Mais des routes fermaient la circulation, donc on faisait la trace pendant 4-5 heures. Et puis l'avantage de la neige, c'est qu'on n'a pas à se poser la question de nous trouver de l'eau, en fait.
Quand on revient à la maison, vos filles voient un papa aventurier, un papa qui fait du feu avec le bois, qui mange les plantes. Il y a un côté un peu romanesque à leur niveau.
Mais je pense pas, parce qu'elles ont grandi là-dedans, en fait. Pour elles, elles sont pas surprises de ça. Quand je les amenais avec moi, quand elles sont venues me rejoindre, et Mais on en a fait avant des choses de voyage ensemble, mais là on continue à en faire. Là, régulièrement, je pars il y a encore 15 jours. On est parti faire 4 jours de marche en autonomie dans les Monts d'Arrée avec un copain. J'avais deux de mes filles avec moi. On a bivouaqué, pareil. On a fait du feu, on a mangé. Voilà, pour elle, c'est pas, je pense pas que c'est là où c'est un peu le côté où vraiment je pense où ça a été dur pour elle. C'était la coupure, c'est-à-dire de ne pas me voir pendant 2 mois et demi. Mais ça n'a pas été le fait, je pense que mes parents étaient plus inquiets que mes filles, je pense. Parce que bon, mes filles, elles savaient de quoi je parlais quand je les avais au téléphone, elles savaient ce que c'est de dormir l'hiver sous tente ou sous tarpe, de manger au feu de bois, et c'est, pour elles, c'est un plaisir, en fait. Nous, actuellement, ça nous arrive de prendre le sac à dos et d'aller sur l'île aux Pins, dans la petite mer de Gavre, faire un bivouac. Sur l'île aux Pins, c'est pas loin, mais on retrouve le plaisir de dormir dehors, de faire griller les chamallows le soir, de manger notre soupe. Non, je pense pas qu'elles aient vécu ça comme un exploit. Elles ont été inquiètes, oui, ça je pense. Après, la petite qui avait 5 ans pour le voyage, je pense qu'elle a vu autre chose. Elles n'ont pas vu tous le même voyage, en fait. Je pense que... Les autres, elles ont en âge, donc Héloïse qui a 12 ans et Adélie 16 et la grande de 22, elles ont eu plutôt à voir les difficultés techniques que les difficultés de traverser de la montagne sous la neige. Mais la petite, elle a plutôt vu le côté ouais, aventure à la Tintin, en fait, je pense. Mmh. Et puis sa maman était aussi, relativement aussi intelligente pour justement pas la stresser par rapport à essayer de tempérer, dire. Après, mon père était très inquiet. Plus le voyage avançait, moins il était inquiet. Et au final, voilà, il a trouvé. On avait prévu de marcher ensemble sur l'arrivée, mais bon, il se trouve que les conditions météo étaient vraiment très très mauvaises en Provence. Donc moi, j'ai pas pris les chemins de randonnée. Pareil pour des raisons de sécurité. Et puis bon, de toute manière, c'était pour rien voir, parce que j'avais prévu de voir les lignes de crête, donc voir la Nice, la Méditerranée, tout ça, et c'était pas possible, il y avait trop de mauvais temps, trop de pluie, trop de vent, donc ça a été 4 jours de route, donc là, il n'est pas venu me rejoindre, parce que ça n'avait aucun intérêt. Donc voilà, donc on n'a pas fait cette marche, mais bon, on va la faire, chez mon père rentre bientôt en Bretagne pour y habiter, donc on va en faire des marches, parce que mon père est un grand randonneur aussi, donc... Grand randonneur, mais pas grand bivouaqueur.
Bien, merci Christophe. On écoutait donc un reportage de Gaëtan Priori sur Christophe Lemézeau qui a traversé la France à pied par un chemin rectiligne de la Bretagne à Nice. Au revoir.
Sylvain Tesson, la grande librairie.
Alors voilà, donc c'était simplement pour ça que j'avais la certitude que la marche allait me permettre non seulement de reconquérir les forces musculaires, ça, c'est ce qu'on appelle la rééducation, mais également les forces intérieures. Parce qu'évidemment, cette chute m'avait très légèrement déprimé. Et je savais que je pouvais demander à la nature, à la pratique du terrain, aux nuits, à la belle étoile, de me revivifier, voilà, intérieurement.
Vous posez la question vous-même dans ces termes. Quel intérêt de hisser ce corps en loc jusqu'au nord d'un pays en ruine ? Vous partez effectivement du Mercantour et puis vous traversez la France comme ça, jusque dans le Cotentin, en diagonale, la diagonale du fou.
Oui, c'est-à-dire qu'au début, ça a été difficile. Bon, je partais, c'est la Provence, la montagne de Lure, le Mont Ventoux, j'étais quand même un peu brinque-ballant, quoi. Je sortais de l'hôpital, j'étais à moitié, c'est ce que j'appelle être en loc, quoi. Je clopinais. Puis peu à peu, tout allait mieux. Et alors, quand je dis le pays en ruine, en essayant de faire cette analogie, c'est parce que le pays, en 50 ans, et c'est pas à Pierre Rabhi que je vais l'apprendre, parce que c'est une de vos spécialités de regard. Le pays en 50 ans, enfin en 5 décennies, grosso modo après la guerre, a paysagèrement connu une espèce de mutation, quoi, qui est, qu'on peut dire, effroyable. C'est-à-dire que tout à coup, la triple action de l'industrialisation, de la décentralisation, de la productivité, a transformé ce qui avait été l'œuvre de milliers d'années de labeur paysan.
C'est donc la fin de ce reportage en 3 parties consacré à Christophe Lemézeau, dont le témoignage de grand marcheur était croisé avec celui de Sylvain Tesson qui s'exprimait sur le plateau de la Grande Librairie. Un micro à la dérive est une émission hebdomadaire qui s'intéresse à vous, à vos histoires. Vous pouvez écouter et réécouter les précédentes émissions sur radiobalise.com,
En attendant la semaine prochaine, même jour, même horaire, je vous laisse pour finir écouter cette dernière annonce. Au revoir.
Un micro à la dérive.
L'émission de reportage Un micro à la dérive vous propose de devenir l'un de ses producteurs, animateurs. Vous êtes curieux ? Vous avez le sens du contact ? Vous voulez traiter des sujets de société ? Alors rejoignez-nous. Vous serez formé aux techniques d'interview et de montage. Pour plus d'informations, contactez Gaëtan Priori au 06 521 585 23, 06 521 585 23 ou par mail @laposte.net. Merci de rester sur Radio Balise.